manque encore un petit peu de spontanéité, on le comprend, on n'est pas habitué à cette technique-là, mais merci Seigneur, on va au fur et à mesure prendre un petit peu plus d'assurance. Pour moi aussi, ce n'est pas un exercice facile, je préfère vous avoir en face et que ce soit à l'église, mais bon, merci Seigneur pour ces moments qu'il nous donne quand même. L'on peut, eh bien, se rassembler, se voir. Déjà, on est unis par le même esprit, par la même foi. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais poursuivre la méditation. Je salue tous ceux que j'ai pas vus, qui sont arrivés en cours de route après. Je les salue dans le nom du Seigneur. Voilà, on va continuer notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Et cette pensée, c'est la profondeur de Dieu dans notre cœur. La parole qu'il nous a laissée, cet évangile, il est tellement profond, tellement puissant. Je crois que on a besoin de l'expérimenter encore davantage. Pourquoi je dis que l'évangile est profond? Parce que Dieu est profond. Et tout ce qu'il, sa pensée est profonde, son but, sa volonté, c'est profond, c'est étendu, c'est puissant. Et je crois qu'on a besoin réellement de l'expérimenter davantage. On s'habitue tellement à une vie, à des habitudes, voilà, mais je crois que ça dépasse notre entendement, ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Donc, Évangile de Jean, chapitre 3, on relit le texte de base. On lira à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, on lira d'autres textes au fur et à mesure de la méditation. Donc, je rappelle que l'évangile de Jean, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Il n'est pas écrit comme dans l'Apocalypse, où il est écrit révélation du Fils de Dieu, mais c'est tout le thème de cet évangile de Jean. Donc, le Fils de Dieu. Et pour rappel, nous avons l'évangile de Matthieu, c'est le Messie, le roi, le thème de ce livre. L'évangile de Marc, c'est le serviteur. L'évangile de Luc, c'est le Fils de l'homme. Et nous avons développé dans ces évangiles, eh bien, le thème qui revient tout au long de ces évangiles. L'évangile de Jean est à part des trois évangiles synoptiques. Quand nous ajoutons les quatre évangiles ensemble, nous avons une vision complète de Jésus. Dans Jean chapitre 17 et verset 3, il est dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux. Connaître Jésus n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle seulement, mais c'est naître avec. C'est la nouvelle naissance, c'est la vie nouvelle, la vie du Christ ressuscité en nous. La connaissance de Jésus-Christ nécessite une connaissance aussi créée par le Saint-Esprit, mais une connaissance de notre cœur, de notre besoin, de notre nécessité absolue de Jésus dans notre vie. Et nous allons voir ensemble, nous avons vu, pardon, ensemble dans les trois premiers chapitres de Jean, que Jésus révèle le plus profond des cœurs des hommes pour amener à une conviction, à un besoin réel, du salut, pour les perdus, mais aussi un besoin beaucoup plus profond de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens. Je crois que le Saint-Esprit agit dans chacun de nos cœurs, mais il voudrait agir beaucoup plus profondément. Avant son retour, Jésus veut aller en profondeur, jusque sur le fondement, la racine même. Et nous avons vu quelques exemples où Jésus a révélé les cœurs. Le cœur de Jean-Baptiste, le cœur de Simon, qui deviendra Pierre, et lui donne une parole prophétique. Il est dit, tu es Simon et tu seras appelé Pierre. Nathanaël, il est parlé de Nathanaël, Jésus dit, et voilà un homme dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Nicodème, qui vient de nuit vers Jésus. Les disciples, qui avaient cru, après avoir vu, eh bien, les miracles, ils ont cru, mais Jésus dit qu'il ne se fiait pas à eux. Il ne faisait pas confiance parce que il les connaissait tous. Nous avons vu les religieux dans le temple et au chapitre 4, la Samaritaine, Jésus connaissait parfaitement sa vie, son cœur, et il lui a révélé. J'avais intitulé le message Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Tout se passe au niveau de notre cœur. Bien sûr, de la connaissance intellectuelle. On lit, on comprend les choses, et puis il faut que ça descende dans notre cœur. Et le cœur naturel de l'homme, il n'est pas bon. C'est Jérémie le prophète qui le révélera dans Jérémie 17 au verset 9. Le corps de l'homme est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Ce qui intéresse Dieu, c'est au-delà de notre attitude, de nos paroles, ce qui intéresse le Seigneur, c'est vraiment notre cœur, nos motivations, notre volonté, notre soif. C'est ce qui intéresse le Seigneur parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'y a pas de limite avec Dieu, seulement les limites que nous nous mettons, parce que Dieu est tellement grand, son œuvre, elle est tellement étendue, le Saint-Esprit est tellement... Son œuvre est vaste, nous pouvons recevoir de lui jusqu'à toute la plénitude, comme le dira l'apôtre Paul, et bien qu'il priait pour que toute la plénitude de Dieu soit dans le cœur des croyants. Voyez qu'il y a une grande marge et nous ne pouvons que progresser les uns et les autres. J'aimerais que nous puissions nous rendre compte que nous sommes tous concernés par ce que le Seigneur veut faire, parce que la parole nous décrit. Nous sommes tous concernés, il n'y a aucun qui peut dire, moi je suis arrivé, moi c'est bon, je suis chrétien, je marche avec Dieu. Aucun. Nous marchons avec le Seigneur, mais nous avons tellement besoin de lui et il veut aller au plus profond. Le thème que nous poursuivrons se situe au verset 30, il est très simple, le processus de notre vie. Il faut qu'il croisse Jésus et que je diminue moi. Nous verrons plus tard l'humilité de Jean-Baptiste qui a cité quelques paroles dans le texte que nous avons lu qui sont vraiment formidables. Bien sûr, il est question du ministère de Jésus et nous l'avons vu au fur et à mesure des versets, des chapitres. Le ministère de Jésus devenait de plus en plus grand, il prenait de plus en plus d'ampleur et bien sûr le ministère de Jean-Baptiste qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir son sentier. Il est venu préparer les cœurs au message de Jésus, ce message de repentance. Et au fur et à mesure que Jésus prenait de la place, Jean-Baptiste, son ministère diminuait jusqu'à s'effacer. Mais dans ce verset qui est cité, il y a aussi également l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre propre cœur. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place, qu'il grandisse et que nous, nous diminuions. Le rôle du Saint-Esprit, son but, c'est d'établir Jésus sur le trône de notre cœur. Et pour cela, que d'expérience, que de souffrance, que de contrariété, que d'opposition, pour que le Seigneur arrive jusqu'au fond de notre cœur. On a l'impression, quand on se convertit, qu'on a tout compris, que Jésus a toute la place dans notre vie, que nous avons livré notre vie tout entière sur l'autel du sacrifice, mais on est loin de cela. Au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, l'orgueil doit diminuer, l'humilité doit grandir, et nous nous apercevons que nous avons tellement, tellement, tellement besoin de Christ. Et c'est ce qu'il veut faire, et c'est notre espérance. Quelqu'un a écrit, il faut souvent aux chrétiens une longue vie d'expérience humiliante pour être amené à s'exprimer comme Jean-Baptiste, car notre cœur naturel a toujours la tendance à s'élever. Jamais le désir de s'abaisser. Il n'aime pas à dire comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue. En revenant à l'évangile de Jean, nous rappelons que dans ces trois premiers chapitres, nous avons tout l'évangile en condensé dans ces trois chapitres. Nous avons bien la révélation de Christ, la révélation du cœur des hommes. Nous avons aussi l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix. Nous le trouvons dans le chapitre 3, du verset 14 jusqu'à 17, l'œuvre de la croix puissante. Nous avons la nouvelle naissance avec Nicodème, nous allons y revenir. Nous avons la volonté de Dieu qui est là, l'œuvre magnifique du Saint-Esprit. Nous avons, comme j'ai dit, la croix, mais nous avons aussi les empêchements. L'empêchement majeur, c'est l'orgueil. Nous avons dans Jean, au chapitre 3, du verset 19, jusqu'au verset 20, l'orgueil qui est là et qui est un empêchement majeur. Nous avons en face de la personne et de l'œuvre de Christ, de l'œuvre du Saint-Esprit, voyez un peu les discussions qu'il y avait, tellement superficielles. Nous l'avons lu, il s'est élevé, il discute au sujet d'un juif touchant à la purification. Voyez comme si c'était tellement important. Il y avait Jésus le Sauveur, il a parlé de la croix. Il y avait Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui annonçait, qui préparait le chemin. Et eux, ils se disputent vis-à-vis de la purification. Vous voyez comme ils étaient en dehors de la vie de Dieu. Il y avait même un esprit de compétition. Vous voyez, au verset 26, et les disciples de Jean lui disent, mais tu vois, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, il parlait de Jésus, celui à qui tu as rendu témoignage, eh bien maintenant, il baptise. En fait, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais passons. Il dit, il baptise plus que toi, mais tous vont à lui. C'est encore une erreur là, tous n'allaient pas, mais tous vont à lui. Il y avait comme un esprit de compétition. Voyez, quand l'Esprit de Dieu n'a pas beaucoup de place dans notre cœur, eh bien c'est tout ce qui est superficiel qui agite et qui manifeste notre vie. Mais Dieu veut que l'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile, l'œuvre de Jésus puisse descendre profondément dans notre cœur pour qu'il y ait une révélation. Et quand Jésus se révèle de plus en plus, ce qui nous intéresse, c'est les questions spirituelles, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est pas les choses tellement superficielles qui prennent toute la place dans notre vie, mais c'est cette soif qui grandit. Plus le Seigneur se révèle, et plus la soif de lui grandit. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions ou on a l'impression qu'on peut marcher comme ça avec le Seigneur d'une manière même superficielle. Et quand il va revenir, il va y avoir un acte magique, on va être transformé d'un coup avec des corps glorieux. Non, 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 celui qui n'aura pas marché avec le Seigneur ne partira pas. Toute la Bible, tout le Nouveau Testament nous enseigne que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si l'œuvre de Dieu n'est pas descendue, si notre cœur, si Jésus n'est pas établi sur le trône de notre cœur, nous ne serons pas un jour prosternés devant lui, sur le trône de la grâce, devant lui, en l'adorant. Nicodème, nous voyons, je voulais juste souligner un fait qui est tellement important, la nouvelle naissance. Nicodème, dans le chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 13, Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Alors cet homme, Nicodème, quand on regarde de près, il a un bon témoignage. C'est un homme qui a une très bonne connaissance de la loi, de la parole de Dieu. Il est travaillé par une question qui le taraude, c'est comment ces miracles peuvent-ils se faire? Il sait que Jésus vient de Dieu. Il a déjà une connaissance. Il est travaillé par cette question, il voit les miracles, et j'allais dire, c'est normal d'être travaillé quand il voit ces miracles se produire devant ses yeux, il veut une explication, et il n'y a rien de mauvais dans cela, au contraire, il veut une explication. Mais cet homme, quand on regarde de près, Jésus d'abord ne répond pas à sa question, parce qu'il y a un besoin qui est plus profond que sa question, et le besoin qu'il a, c'est de naître de nouveau. En fait, cet homme, avec toute sa moralité, tout son bon témoignage, toute sa connaissance, même ses questions qui sont bonnes, parfois il y en a des mauvaises, mais là, elle est bonne, cette question. Malgré tout cela, il est étranger à la vie de Dieu, étranger au royaume. Et Jésus, eh bien, connaît parfaitement son cœur et ses besoins. Et il lui dit au verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous, d'un point de vue humain, on dirait, mais cet homme, il a une connaissance, il croit en Jésus, il croit que Jésus vient de Dieu, il croit que personne ne peut faire les miracles qu'il fait s'il ne vient de Dieu, il a une connaissance, tout ça. Comment cet homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu? Et non, dans le royaume de Dieu ne entreront que ceux qui ont la même nature que Jésus. La vie de Christ en eux entreront dans le ciel, cette vie qui, quand elle est dans un cœur, elle se développe. Il n'y a pas d'autre possibilité, la vie de Dieu va se développer. Alors, les disciples un jour poseront cette question à Jésus, dans d'autres circonstances, ils poseront cette question à la suite de l'entretien de Jésus et le jeune homme riche. Là aussi, un jeune homme qui a toutes les qualités, qui a la connaissance, qui a un cœur même qui est disposé, il vient vers Jésus, il s'agenouille, il pose une bonne question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, pas hériter peut-être, mais avoir la vie éternelle, voilà, il est sincère, il est... Et Jésus dira à cet homme, eh bien va, vends tous les biens que tu as, donne-les aux pauvres et suis-moi. Pourquoi? Parce que ces biens matériel, sa richesse, était un lien trop fort, était une idole, était quelque chose qui ne pouvait pas être compatible avec la marche avec Jésus. Alors dans nos vies, il peut y avoir des choses qui prennent tellement de place que ça devient incompatible. Jésus dans notre cœur, Jésus qui veut être assis sur le trône de notre cœur, et en même temps, une idole ou des idoles, des choses qui prennent nos sentiments. Vous voyez, la vie avec Dieu, il faut notre cœur entier. Il faut nos sentiments, il faut notre volonté, il faut qu'il y ait une soif, il faut qu'il y ait une détermination, il faut qu'il y ait un engagement. C'est tellement, le monde est tellement, il y a tellement de tentations, tellement de choses qui peuvent nous distraire, nous éloigner, nous écarter du chemin, que si nous ne sommes pas déterminés, nous ne pouvons pas. Donc c'est pour ça que Jésus dira à cet homme, et plutôt ce jeune homme repartit tout triste. Et les disciples vont poser cette question, mais et alors qui peut être sauvé? Si nous avons vu ce jeune homme, les qualités qu'il a, aujourd'hui il serait baptisé 10 fois. C'est indéniable. Et on dirait, mais si cet homme ne peut pas être sauvé, mais qui alors peut être sauvé? Et Jésus leur dira, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le salut, la nouvelle naissance, la régénération viennent de Dieu et de Dieu seul. L'œuvre, c'est lui qui l'a fait. L'homme, dans son orgueil, veut y être pour quelque chose. Ainsi, il peut avoir le langage, l'attitude, les habitudes, sans que l'œuvre de Dieu ne se soit faite dans le cœur. Et vous allez me dire, mais si on vient à l'église, si les gens viennent à l'église, c'est pas une garantie, c'est pas les murs qui sanctifient, c'est pas de venir à l'église, même de prier, de... Oui, c'est pas ça notre garantie, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur, la nouvelle naissance, la régénération, c'est ce qui nous permettra non seulement d'aller au ciel, bien sûr, mais de progresser, de grandir dans la sanctification ici-bas sur la terre. Ou alors, quand elle est faite, ça peut arriver aussi, quand cette nouvelle naissance s'est faite, l'ennemi fera tout pour arrêter ce processus de croissance, cette sanctification. Il fera tout pour l'arrêter, c'est-à-dire d'établir Jésus sur le trône de notre cœur, afin qu'il croisse et que je diminue. Donc ces quelques méditations auront pour but de nous faire, bien sûr, réfléchir, de rentrer en nous-mêmes, de passer, bien sûr, on l'a déjà dit dans le premier confinement, mais dans ce deuxième, de passer, je dirais, beaucoup plus de temps avec Dieu, pour méditer la parole, pour prier. Sur ce thème qui est tellement important que tout le reste en dépend. Si l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans notre cœur, si elle ne grandit pas en nous, le reste ne peut pas suivre. C'est de l'intérieur du cœur que viennent les choses, les mauvaises et les bonnes. C'est de l'intérieur de notre cœur. Donc en méditant sur ce thème, réfléchissons ensemble en reprenant les évangiles, en reprenant les épîtres. Qu'est-ce qu'une conversion? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que ça apporte, l'œuvre du Saint-Esprit en moi? Quels sont les fruits, les désirs, la direction? Il faut réfléchir à ces choses et prendre les versets, les noter, les surligner, les méditer. Est-ce que cette œuvre s'est faite dans mon cœur? Si oui, merci Seigneur, mais il faut qu'elle se développe, parce qu'il y a des obstacles, des choses qui empêchent la croissance, cette progression dans la foi, dans la connaissance, dans la révélation. Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent? Je ne veux pas rester toujours le même pendant encore des années, si Dieu tarde à venir, mais il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses qui peuvent vraiment nous bénir nous-mêmes, mais bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Quelles sont les conséquences de la conversion, de la nouvelle naissance, de la grâce agissante, en regardant à ma propre vie, pas à celle des autres, mais ma propre vie? Vous voyez, quand on a superficiel un esprit religieux, on regarde aux autres, je l'ai déjà dit, mais on regarde aux autres. Quand l'Esprit de Dieu est dans notre cœur, on se dit, mais Seigneur, il y a tellement de travail dans mon cœur, je ne vais pas m'occuper, voir la paille dans l'œil de mon frère ou de ma sœur. Seigneur, fais-moi grâce, que ton œuvre se fasse en profondeur dans mon cœur. Voilà, réfléchir vers où mon cœur me pousse, mes pensées, mon temps, quelle place à Jésus? Toutes ces questions, il faut se les poser. Dans mon emploi du temps, quelle place à Jésus? Quelle place à la parole? Quelle place à la prière? L'œuvre de Dieu? Quels sont mes désirs profonds? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Y a-t-il un processus de croissance en moi, dans la connaissance, dans l'expérience, dans la révélation? Est-ce que le fruit grandit? Est-ce que le témoignage est probant? Toutes ces questions, il faut se les poser parce que c'est tellement important que tout le reste va en dépendre dans notre vie. Ce n'est pas des questions hautement théologiques où on ne sait pas dans l'Apocalypse, dans ceci, il y a des questions. Non, ça me concerne moi, ça concerne l'œuvre de Dieu en moi, c'est ce que le Seigneur a promis de faire, c'est en fait ce qui est normal dans l'Écriture quand quelqu'un est converti, ce sont des choses normales, ce n'est pas une proie arrachée, c'est ce que Dieu a prévu normalement. Ce que Dieu a fait dans notre vie est immense. Le salut. Et béni soit le Seigneur, la plupart sont sauvés, ont accepté Jésus. Mais ce qu'il veut faire dépasse notre entendement, parce que Dieu est grand. Moi, je ne peux pas me résigner à me dire que voilà, la vie qu'on mène, la vie d'église, les églises, c'est normal, voilà, voilà, Dieu a voulu comme ça. Non, Dieu a voulu beaucoup plus. Parce que Dieu est beaucoup plus grand, sa gloire est beaucoup plus grande, son esprit est beaucoup plus puissant. L'évangile, c'est une puissance de vie, dira l'apôtre Paul. Et quand on voit ce que l'évangile a produit dans le cœur de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, quand on voit comment il a pu bénir toutes ces églises, quand on voit ce qu'il a fait, bien sûr, nous n'aurons ni vous ni moi le ministère de l'apôtre Paul, il n'y en a eu qu'un, mais en tous les cas, ça nous montre un peu ce que Dieu est capable de faire. Et quand Paul dira dans le chapitre 3 des Philippiens, « Je cours pour tâcher de saisir le but, de saisir Christ, si je puis, si je puis, si je le puis. » Quelle humilité! Quand on voit ce que le Seigneur a fait dans le cœur de cet homme, et qui se dit encore, j'ai pas atteint le but. J'ai pas atteint le but sur la terre déjà, j'ai pas atteint le but. Alors, pour chacun d'entre nous, sans dire, je crois qu'on est tous concernés, Dieu veut une église plus à la ressemblance de Christ. Il veut des cœurs plus à la ressemblance de Christ. Du temps passé, des fruits produits par le Saint-Esprit, d'un témoignage probant, des miracles, des régénérations, et tout cela, c'est dans notre cœur. Voyez là, ils discutaient de choses secondaires, de purification, et ça c'est le cœur de l'homme naturel, il va perdre du temps, il va discutailler sur un truc, sur un autre, oui mais là il n'y a pas ça, et là il n'y a pas ça, mais c'est pas ça l'œuvre de Dieu elle est profonde, elle est en moi, c'est pas des choses superficielles. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais on aura le temps de continuer à partager. Alors, quand on parle de vie éternelle, on pense souvent au salut comme, j'allais dire entre guillemets, une assurance vie éternelle. Voilà, j'ai été sauvé, un jour, eh bien, je vais rejoindre mon Seigneur dans le ciel. Oui, j'allais dire oui, mais c'est largement au-dessus de cela. C'est pas seulement cette pensée-là, mais la pensée du Nouveau Testament, il y a surtout l'idée de qualité de vie, de puissance de vie. C'est le terme en grec zoé. Zoé, c'est l'état de celui qui possède la vitalité spirituelle, qui est animé, son âme est vivante. C'est la plénitude absolue de vie. C'est la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie dans ce monde. Pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions, un corps parfait, glorieux, et pour l'éternité. Donc j'aimerais retenir qualité de vie, puissance de vie, qui produit. Et ça, nous le retrouvons dans cette idée de vie abondante, dans la grâce, produisant du fruit, exerçant les dons reçus, pour le développement et pour le bénir les autres et glorifier Jésus. Ayant les regards sur Jésus, l'idée, elle est dans Jean chapitre 10 et verset 10. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, Zoé, la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Cette vie du Christ ressuscité, c'est cela l'idée vie éternelle. C'est cette vie du Christ dans notre vie qui se poursuivra jusque dans la vie éternelle. Alors, est-ce que cette vie dans ma vie produit? Est-ce que Christ, la vie du ressuscité, produit dans ma vie? Il faut que je me pose ces questions. Il faut que je me place devant Dieu, vous et moi. Et nous avons besoin de laisser nous révéler les choses qui font obstacle, parce que parfois on ne sait même pas ce qui fait obstacle. Mais le Saint-Esprit veut le révéler, il est là pour ça, pour convaincre nos cœurs. Ayant les regards sur Jésus, recevant de lui par la foi, laissant le Saint-Esprit me convaincre et me délivrer de tout ce qui fait obstacle. Parce que le problème ne viendra jamais de Dieu, de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire. La Bible nous dit qu'il va au-delà même de tout ce que nous pensons ou imaginons. L'obstacle ne vient pas de la parole, ne vient pas du Saint-Esprit, l'obstacle c'est nous. Et tant qu'on se dit, on se complaît, on se dit, voilà, moi j'ai été sauvé, je marche avec le Seigneur, je vais à l'église, je lis la Bible, tant que ça ne bougera jamais. Mais si je me place devant Dieu en disant, Seigneur, tu es beaucoup plus grand que tout ce que j'ai expérimenté, le Saint-Esprit est une puissance encore plus extraordinaire, l'Évangile, comme dira Paul, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ta parole, elle est créatrice, ta parole, elle produit, ta parole... Mais moi, dans ma vie, il y a peu. Alors, Seigneur, ça vient de moi. Je ne veux pas pointer le doigt sur les autres, c'est la faute aux autres, ça c'est une rengaine, c'est nul. Le problème, c'est moi, ma Bible, mes genoux dans ma chambre devant le Seigneur. Voilà, c'est là que l'énergie, c'est là que ça se produit. Et ensuite, je transmets ce que j'ai reçu, ce que j'ai expérimenté. Je suis un moyen de bénédiction à l'Église et dans ma famille et dans mon voisinage et pour les autres. Dieu nous aide à comprendre ces choses, à en faire non seulement un sujet de prière, de méditation, mais à se dire, voilà, il faut que le Seigneur ait plus de place. C'est ce que Paul souligne dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Mettez en œuvre, c'est laisser le salut s'exprimer, laisser le salut se continuer. Il faut que on puisse voir ça. J'ai été baptisé en telle année. Où j'en suis aujourd'hui? Quel progrès? Est-ce que j'ai remarqué des choses qui se sont passées en un an, en 10 ans, en 30 ans? Est-ce que mon caractère a changé? Ma vie a changé? Mon orientation? Est-ce que les révélations que j'ai reçues du Seigneur, l'expérience? Est-ce que, voilà. Tout ça, il faut se les poser avant que le Seigneur revienne, bien sûr. Alors, il y a de bonnes choses qui nous ont été transmises dans le passé, sinon on ne serait pas là les uns et les autres. La prédication a été annoncée, les choses, mais ces choses, et nous bénissons tous ceux qui nous ont annoncé la parole, certains sont près du Seigneur, mais voilà, nous remercions Dieu pour tous ceux qui nous ont annoncé l'Évangile. Mais quand nous rentrons dans un moule, entre guillemets, dans une église, quelque chose, notre vision, elle peut être assez étriquée par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Et souvent, telle église, tel mouvement, j'allais dire, accentue sur ça, tel autre sur ça, tel autre sur ça. Nous, ça a été beaucoup accentué sur la guérison, les dons spirituels. Et voilà, donc on a beaucoup accentué. Et je peux dire que ça rétrécit notre vision globale de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le but à atteindre, on se dit, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit, et puis ensuite j'exerce les dons, et voilà. J'allais dire, et au risque de vous choquer, mais bon, si je vous choque, c'est l'apôtre Paul qui, il dit qu'on peut exercer les dons spirituels et être charnel. Il le dit dans son épître, la première aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Or, nous voyons que l'Église de Corinthe avait tous les dons, 9 et même plus. » Quand nous voyons dans Romains 17, il y a plus que… Il les avait tous, et la parole de Dieu donne ce témoignage. Et pourtant, il dit en parlant à l'Église, « Vous êtes charnels. » Quand on voit qu'il y a de la jalousie, des disputes, des contestations, de ceci, de cela, et en même temps, il y avait des dons spirituels. Il y a quelque chose qui cloche un petit peu. C'est dommage qu'il n'ait pas eu les dons spirituels en étant spirituel. Ça aurait porté encore davantage et il n'y aurait pas eu toutes ces choses dont Paul était obligé de souligner, de leur écrire et de les exhorter à cesser certaines choses. L'Église des derniers temps, et je vais conclure, mais l'Église des derniers temps est une Église globalement assoupie. Il faudrait être peut-être un peu aveugle pour pas le voir, mais l'Église en général, c'est une Église assoupie qui ne se conforme plus, qui se conforme plutôt à des pensées humaines concernant Dieu, la vie chrétienne, qu'à la parole de Dieu. À différentes époques, face à l'Église en sommeil spirituel, Dieu a suscité des réveils, plus ou moins puissants, plus ou moins étendus, mais qui ont eu des conséquences bénies. Certains pensent que Dieu va susciter un réveil mondial avant son retour, avant sa venue prochaine. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Pourquoi je ne le crois pas? Parce que dans la Bible, il n'est pas fait mention d'un réveil mondial avant le retour de Jésus, avant sa venue. Au contraire, il est question de beaucoup de persécutions et d'un nombre restreint de croyants qui viendra chercher. Alors, je crois plutôt à un réveil individuel, personnel, ça j'y crois, partout, dans plusieurs églises, dans plusieurs mouvements, il y aura des hommes et des femmes qui vont se tenir devant Dieu en méditant la parole et qui vont dire « Non, je ne peux pas me résigner à cela. Je ne peux pas croire que l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la parole, ça produit que ça. Je ne peux pas me résigner. Il faut véritablement que je me tienne devant Dieu. Je ne peux pas me résigner à ce que le péché persiste, même dans les églises, à ce que… Non, je ne peux pas me résigner. Je veux me tenir devant toi, Seigneur, jusqu'à ce que ton esprit puisse atteindre le plus profond de mon cœur. Je ne peux pas me résigner à cela. Dieu est en train de préparer son Église, partout. On sera peut-être étonné, mais Dieu est en train de préparer son Église. Alors je crois que partout, dans tous les milieux, il y a des hommes et des femmes qui, au fond de leur cœur, pleurent, ne se résignent pas, ne s'habituent pas à ce que le péché reste le péché, à ce que il y a tant de divorces, à ce que il y a tant de superficialité, tant de discussions mondaines, des choses qui, la spiritualité est tellement basse dans les églises, ils ne peuvent pas se résigner. Il y en a partout, chez nous et ailleurs. Il y en a partout, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas et qui pleurent devant Dieu. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel le soulignera dans Ézéchiel 9 au verset 4. Il est dit, et Dieu parle. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ça, c'est des hommes et des femmes qui ont un peu le cœur de Dieu. Dieu, eh bien, il est celui qui pleure quand il voit ce qu'il voit. Et il y a des hommes et des femmes. D'ailleurs, dans le même livre, Ézéchiel, il est dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Ouvra-t-il ces hommes et ces femmes dans nos églises, dans nos habitudes? Est-ce que nous allons prendre conscience, méditer, dire Seigneur, non, 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 tu es plus grand que ça, tu es plus puissant que ça. Le Saint-Esprit doit avoir une action beaucoup plus profonde, étendue dans nos vies, on parle de tellement de choses futiles, Seigneur, que vraiment tu reprennes ta place dans nos églises. Peut-être qu'il ne l'a jamais eu, mais qu'il la prenne cette place de Seigneur, de Roi des Rois, qu'il puisse diriger, que son esprit dirige, que ce ne soit plus les hommes qui parlent, qui parlent et qui parlent, mais que ce soit le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui parle et qui produise du fruit. Le dernier verset, je vous donne dans Apocalypse 3, verset 3, il dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, la traduction de hommes c'est quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Voyez, partout il y a de ces hommes et de ces femmes. Ils n'admettront jamais, ils n'accepteront jamais, ils ne se compromettront jamais, mais qui voudront toujours glorifier Jésus, quitte à souffrir, à être persécutés, et pour certains, à perdre la vie à cause du nom de Jésus. Dieu cherche encore, au milieu de nous, ces hommes et ces femmes qui ne vont pas vivre dans l'habitude. On se résigne, c'est comme ça, c'est le maximum de notre état spirituel, c'est faire ce que je fais. Non, non, non. Ce qu'on a reçu, c'est glorieux, c'est bon, c'est beau. Mais ce qui est à venir, c'est encore glorieux et plus grand. Alors la parole de Dieu, je termine vraiment, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu révélée. Il faut qu'elle puisse nous interpeller, nous remettre en question, nous convaincre. Tout ce que j'ai établi dans ma vie, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être abandonné. Si je garde ces choses, si je continue, si, mais le Saint-Esprit, où va-t-il agir plus profondément? Va-t-il atteindre la racine? C'est impossible. Il doit y avoir une réforme continuelle dans ma vie, afin que je me conforme à ce que Dieu a prévu dans sa parole, à ce que Dieu veut, et alors le Saint-Esprit agira. Donc, gardons ce verset, méditons-le, reméditons-le. Jean-Baptiste l'a réalisé, il a compris. Bien en restant un homme, et nous le verrons, il reste humain, il aura des doutes plus tard dans la prison, mais il a compris. Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il devienne de plus en plus grand et moi, de plus en plus petit. Je vous laisse sur cette méditation. En tous les cas, nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne, pour ses moyens techniques. Nous poursuivrons la méditation et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse dans ces temps. Pour certains, ils travaillent, d'autres non, sont au chômage partiel à la maison. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, mettons à profit ce temps. Mettons-le à profit. Le temps, comme dit Paul, rachetez le temps. Rachetons-le ce temps. Et que nos familles soient bénies. Que nos maisons en soient bénies. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous aider, Seigneur. Tu vois notre cœur et si nous sommes là, c'est que nous avons le désir. Nous avons, Seigneur, accentue ce désir dans notre cœur. Ce désir qui viendra du Saint-Esprit. Cette soif, Seigneur, de voir Jésus dans ma vie agissant, prenant de la place. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour nos maisons, pour nos familles. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de beaucoup de feuillages, Seigneur, de ces discussions vaines, inutiles, qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Seigneur, de toute distraction inutile, de tout attachement inutile, ah Seigneur, de toute affection même inutile, Seigneur. Aide-nous à nous en débarrasser pour que toi, Seigneur, tu aies enfin la voie libre, le chemin aplani dans notre cœur et que tu puisses agir. Seigneur, que ton Église en soit bénie, que tes Églises en soient bénies, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.